ravie de vous retrouver pour revivre ensemble les temps forts de la semaine en France, en Afrique et dans le monde.
Une semaine d'actualité. Chantal Laureau.
Nous irons de Khartoum à Hong Kong, de Rome à Séoul et pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir une journaliste de terrain qui a arpenté la planète et les zones de conflit pendant plus de 30 ans. Martine Laroche-Joubert, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre » aux éditions du Cherche Midi. Est-ce que vous aviez rêvé, gamine, de ce métier de grand reporter ou est-ce que vous l'êtes devenue parce que vous aviez un goût viscéral? Vous écrivez même un goût quasi animal pour tout ce qui ressemble à un départ vers l'ailleurs.
Petite fille, j'ai été élevée au Maroc, dans le sud du Maroc, parce que mon père était en mission là-bas. Et je pense que c'est là où j'ai attrapé le virus de l'aventure. Je n'avais pas pensé être un jour grand reporter, c'était au-delà de mes rêves. Et puis finalement, c'est arrivé petit à petit et c'est vraiment, c'est un métier que j'adore. J'adore être sur le terrain.
Alors vous écrivez, reporter est bien plus qu'une profession, c'est un engagement. À quel moment, dans quel pays, vous en êtes-vous rendu compte ?
Je pense que je m'en suis rendu compte en Haïti. En 1987, Baby Doc, le fils de Duvalier, était en exil, a été parti, mais les tontons Macoute étaient toujours là, ils voulaient empêcher la tenue d'élections libres, donc en 1987, et ils y sont arrivés en découpant à l'intérieur des bureaux de vote des gens qui venaient voter, ils les découpaient à la machette. C'était très violent, ils ont essayé, nous aussi, de faire la même chose avec nous, et on a bien entendu réussi à s'échapper, mais dans cette surgence, dans cette violence, j'ai senti que j'arriverais à faire des reportages inédits. J'ai senti que je n'allais pas céder à la panique. J'avais peur, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc j'ai senti à ce moment-là que j'étais légitime sur ce terrain-là.
Est-ce qu'il faut réussir à se blinder pour pouvoir témoigner ?
Oui, il faut se blinder d'une certaine manière, parce que si les émotions commencent à me submerger, ça ce n'est pas possible, je n'arriverai plus à faire correctement mon travail. Donc, il faut se blinder, mais pas trop. Il m'est arrivé d'être trop blindée, notamment au Zaïre, où on suivait une cohorte de réfugiés, les gens mouraient de faim autour de nous, j'ai vu un photographe ramasser un bébé, le porter à un poste de secours, et moi j'ai pensé, je ne suis même pas capable de faire ça. Là, j'étais trop blindé, vous voyez, c'est une ligne de crête qui est difficile à tenir. Voilà, il faut se blinder parce que sinon on n'arrivera pas à faire ce métier. Il faut dire aussi que quand on travaille, le travail même nous blinde d'une certaine manière parce qu'on pense à la diffusion du sujet, au montage, etc. Mais si on est trop blindé, ça ne va plus. On n'a plus d'empathie avec les gens et c'est un métier où l'empathie joue un très grand rôle.
Vous avez notamment couvert les deux guerres du Golfe, les printemps arabes, le siège de Sarajevo, bref, des zones de conflit. Est-ce qu'on pense au danger quand on est grand reporter ou est-ce que le risque fait partie du métier, point barre ?
Le risque fait partie du métier. Je ne me pose pas la question du danger avant de partir, parce que si je commence à me la poser, je ne partirai peut-être pas. Donc il sera bien temps de se la poser une fois sur le terrain. Bon, après, moi, je travaille en équipe avec un caméraman et il y a quand ça marche bien, une véritable osmose entre lui et moi. Quelquefois, on marche à l'instinct, on marche à la confiance mutuelle, on décide d'aller au cœur du conflit, vraiment au cœur, ou bien de rester aux abords. Ça dépend. Quelquefois, on y va, quelquefois, on n'y va pas. Donc, je sais que je peux mourir, bien entendu, mais chaque fois que j'ai cru mourir, je me suis trouvée étonnamment calme, assez fataliste finalement. Je me suis dit à chaque fois, tiens, ça y est. Et puis non, finalement, ça n'y était pas.
Mais est-ce que c'est pas parce que au fond de vous, vous vous sentiez quand même quelque part un peu invulnérable ?
Oui, on se sent un peu invulnérable, mais c'est une erreur. J'ai trop vu de journalistes mourir autour de moi. Je pense souvent à Gilles Jacquier qui a été tué à Homs en janvier 2012 en Syrie et avec qui j'avais beaucoup travaillé. Et je suis certaine que Gilles se sentait invulnérable et il est tombé. Donc, Voilà, on se sent invulnérable. C'est peut-être aussi ce qui nous donne la force d'aller sur ce genre de terrain. Mais bien sûr, c'est une erreur. On n'est pas invulnérable du tout, d'autant plus qu'on est souvent des cibles.
Et vous avez frôlé la mort à Raqqa, en Syrie, justement.
Oui, à Raqqa, c'était en juin 2017. Il y a une nouveauté dans ce genre de guerre, c'est-à-dire les drones. Donc la veille, on avait été repéré par le groupe État islamique qui avait envoyé un drone d'observation. Nous l'avions remarqué d'ailleurs, mais les Kurdes avec qui nous étions n'avaient pas réussi à l'abattre. Et le lendemain, ils ont envoyé un drone chargé d'explosifs sur notre voiture. Ils ont largué les explosifs, mais nous venions de sortir. Voilà. Donc la voiture était pliée, mais on s'en est sorti.
Et vous avez aussi risqué votre vie à Sarajevo.
Oui, plus exactement en Croatie, sur le chemin de Sarajevo. On a été pris dans une embuscade. Et puis à un moment, donc les Croates nous tiraient dessus parce qu'ils avaient massacré les habitants d'un village juste à côté. Il y avait eu 130 morts, je crois, le village d'Amici. Et voilà, nous on voulait aller vérifier ce qui se passe. Ils nous ont pris sous des tirs. Et à un moment, les tirs se sont raréfiés. On s'est mis à courir. Moi, j'avais un gilet pare-balles beaucoup trop lourd, beaucoup trop grand. Il m'arrivait jusqu'au genou. Il était conçu pour un homme.
Et c'est donc, vrai qu'à l'époque, les gilets pare-balles étaient très lourds.
Ouais, très très lourds. Et donc, je me suis pris le pied dans une racine. Je suis tombée. J'étais folle de rage contre moi-même parce que je ne pouvais pas me relever. J'ai senti que je m'étais cassé la jambe. Et ils ont continué à tirer. Et à ce moment-là, c'est un journaliste britannique et un casque bleu britannique. D'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de l'ex-Yougoslavie, les casques bleus avaient riposté à une attaque, parce qu'avant ils étaient là mais ils n'avaient pas le droit de riposter, mais là l'attaque avait été tellement forte qu'ils ont donc riposté, et un casque bleu britannique et un journaliste britannique sont venus me chercher au milieu des tirs. Sans eux, je ne serais plus là.
Pourquoi est-ce que parmi toutes les guerres que vous avez couvertes, celle de Bosnie vous a particulièrement touchée?
Elle m'a touchée d'abord parce que j'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui a rompu le siège de Sarajevo en juin 1992. Personne ne pouvait rentrer à Sarajevo, qui était encerclé par les Serbes. L'aéroport était fermé. Personne ne pouvait rentrer. Et les gens à Sarajevo avaient désespérément besoin de médicaments. Et cette jeune femme, elle a réussi, en parlementant avec les Serbes pendant des jours et des jours et des jours, j'étais avec elle, à rompre le siège un soir. Ils nous ont dit, allez-y, ils n'en pouvaient plus de nous, donc ils l'ont laissé passer. Elle conduisait un camion avec des médicaments, et moi aussi je suis passée avec Jean-Marie Le Maire, le caméraman, et voilà. Donc j'ai connu cette jeune femme qui était d'un courage absolument incroyable, et qui plus tard a été assassinée. J'ai fait un documentaire sur elle, et ce qui était aussi très étonnant, surprenant, choquant dans ce siège, c'est que c'était vraiment un siège à l'ancienne, où la Sarajevo était au fond d'une cuvette, les Serbes étaient tout autour dans les montagnes, et il y avait un obus qui tombait toutes les 30 secondes. C'était sauvage, c'était une sale guerre. Et je n'imaginais pas, après avoir couvert la guerre du Golfe, qui était une guerre où il y avait des missiles qui arrivaient lancés à des milliers de kilomètres, etc., que je retomberais comme ça dans une guerre moyenâgeuse, qui plus est, au centre de l'Europe.
Justement, vous racontez une chose assez incroyable. À votre retour à Paris, on vous reproche pour la première fois d'avoir montré les horreurs de la guerre.
Exactement. C'était une guerre que les Français ne pouvaient pas supporter de regarder. Enfin, beaucoup de Français. Et je pense que Sarajevo, c'était trop proche. C'était à environ 2 heures d'avion de Paris, si on avait pu prendre l'avion. Et c'est avec des gens qui étaient tout à fait comme nous. Il y avait même eu les Jeux Olympiques à Sarajevo en 1984. Donc je pense que cette guerre renvoyait les gens à une histoire. Je pense qu'ils pouvaient se dire, au fond, une guerre comme ça, ça pourrait arriver ici, on pourrait être les victimes, peut-être les bourreaux, je ne sais pas.
Ils pouvaient s'identifier.
Exactement. Donc,
mais ils n'avaient pas envie de voir ça.
Ils n'avaient pas envie de voir ça, et toujours ils me disaient, oui, pourquoi vous montrez de pareilles horreurs? De toute façon, on n'y comprend rien. C'était assez simple à comprendre, mais ils ne voulaient pas savoir, ils ne voulaient pas voir.
Une semaine d'actualité. Martine Laroche-Joubert, on va reparler tout à l'heure de votre livre « Une femme au front ». Mais revenons d'abord sur ce nouveau massacre au Mali qui fait ressurgir le spectre d'une guerre civile. 35 personnes, selon un bilan officiel, hommes, femmes, enfants, traquées, abattues, brûlées dimanche dernier dans le village de Sobane, en pays d'Ogon. Julie Vandal.
Des corps calcinés, des maisons incendiées, des animaux abattus, à Makassogué, l'enseignant du village n'en revient pas. Il était chez lui à une quinzaine de kilomètres de Soban quand l'attaque a eu lieu ce dimanche soir. Il y a 10 jours, la localité voisine de Sobandou avait été attaquée comme un avertissement.
Le vendredi passé, le 31 mai 2019, il y avait une cinquantaine de motos supportées. Deux par moto, ils étaient lourdement armés, ils étaient venus à Sobandou. Et ils avaient fait des tirs à l'air, la population était effrayée, d'autres avaient fui, d'autres étaient entrés dans leur maison et s'enfermés. Donc comme ça, ils ont sacré tous leurs troupeaux et parti.
Ce dimanche, c'est à la faveur d'une tornade que les assaillants sont arrivés. Toujours à bord de motos et très lourdement armés, selon les témoignages, ils ont encerclé Soban avant de lancer l'assaut. Kenekou Dara, propriétaire d'un campement touristique situé non loin de là, était sur les lieux du massacre dès 6h ce lundi matin.
C'est vraiment terrible. Ils ont brûlé les maisons, les tourbillons, ils ont apporté leurs animaux, ils ont brûlé les personnes dans leurs maisons. L'attaque a duré au moins de 17h jusqu'à 1h du matin.
Ce massacre de civils Dogon à Soban intervient après celui de 160 civils Peul le 23 mars à Ogossagou. Faut-il envisager la piste de la vengeance Peul ou la piste djihadiste? Impossible de répondre pour l'instant, d'ailleurs selon certains spécialistes, l'une n'exclut pas l'autre. Le printemps soudanais a tourné au drame dimanche dernier, le 3 juin. Le sit-in des manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum a été démantelé sans ménagement, principalement par les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Bilan, plus de 100 morts. Depuis, la ville n'est plus la même. Les soldats sont omniprésents dans la capitale et les FSR y commettent régulièrement des exactions, tout comme dans la ville voisine d'Omdurman. Le reportage de notre envoyé spécial, Sébastien Némette.
Bachir Nouri sert thé ou café aux étrangers qui viennent le voir. Il a le visage fermé, les yeux rougis et gonflés de quelqu'un qui ne dort plus. Son fils de 14 ans, Audaï, a été tué la semaine dernière à côté de leur maison.
Il a traversé la rue. Des coups de feu ont éclaté et il a reçu une balle en pleine poitrine. Les FSR étaient en face avec des armes lourdes que personne ne devrait utiliser contre des gens. Je ne sais pas pourquoi il a été touché, mais c'était un gros calibre. Ses intestins étaient par terre. Et ce n'était pas une balle perdue, il était clairement visé. Après ça, j'ai vu que les FSR discutaient, rigolaient, comme s'il ne s'était rien passé.
Bachir Nouri est dévasté par la tragédie, mais il n'en restera pas là. Il obtiendra justice, dit-il, quoi qu'il arrive.
Je ne vais pas laisser le sang de mon fils couler pour rien, même si je dois mourir pour ça. J'ai demandé un avocat et j'ai porté plainte contre le chef du conseil militaire et contre la coalition civile, car elle aussi est responsable. Elle a laissé la situation en arriver là. Mais les FSR sont des criminels, des irresponsables. Ils disent que d'autres gens utilisent leurs uniformes. C'est totalement illogique. Ils disent vouloir nous protéger, mais ils font le contraire.
Son autre fils, Awad, âgé de 19 ans, a lui aussi failli être abattu par les FSR. Bachir Nouri dit qu'il ne vit plus tranquille et qu'il ne supportera pas la perte d'un deuxième enfant.
Martine Laroche-Joubert, vous saluez dans votre livre ces peuples qui ont le courage de s'élever contre un dictateur. Et au Soudan, ce qui vous a frappé dans les reportages, les photos qui nous parviennent, c'est l'image de cette étudiante devenue l'icône de la contestation.
Oui, elle est là. C'est une magnifique photo en tenue traditionnelle blanche, une tenue qui rappelle celle des reines nubiennes. Et elle est là sur une estrade et elle harangue la foule. Et en effet, ce qui m'a frappé au début de cette révolution, c'est le rôle des femmes. Elles étaient extrêmement nombreuses à l'avant-garde de cette révolution. Et voilà, ça me touche particulièrement. Je ne sais pas ce qui est devenu cette jeune étudiante en architecture.
À la Sala.
Exactement, elle a 22 ans. J'aimerais bien le savoir. Donc je suis souvent très touchée par le rôle des femmes dans les révolutions et particulièrement au Soudan où je sais qu'il y a une majorité de femmes qui est excisée. C'est quand même un pays très conservateur, très traditionnel et le fait que, comme ça qu'elle soit à l'avant-garde de ce mouvement est vraiment émouvant, touchant et ça envoie un message très fort.
Sept jours en Afrique.
Martine, l'Afrique occupe une part importante dans votre livre, le Maroc de votre enfance, vous l'avez dit tout à l'heure, la Libye, le Niger, la Centrafrique. On entend en ce moment les fameuses polyphonies des pygmées Aka. C'est une rencontre qui vous a marqué, c'était votre premier reportage en Afrique noire.
Exactement, et c'est là où aussi j'ai à nouveau senti le parfum de l'aventure qui me gagnait. C'était merveilleux. C'était en 1979, à la fin de 1979, et nous étions en reportage chez les pygmées Aka, qui vivaient encore dans des huttes en feuilles, qui chassaient, dont le rêve était qu'un jour un éléphant les enjambe et qu'il réussirait à l'éventrer. C'était ça le rêve d'un pygmée, pour se sentir vraiment un homme. Et j'avais été frappée par leurs chants, qui sont des chants polyphoniques, qui sont incroyablement riches. Ces chants sont étudiés par des chercheurs du CNRS, et ce sont des chants tout à fait remarquables. Et ce qui me fait de la peine, c'est que je sais que les pygmées sont en train de disparaître. Il y en a de moins en moins à cause de la déforestation en Afrique noire, parce que petit à petit, ils sont devenus sédentaires, ils se sont rapprochés des villes. Mais voilà, et ce sont des gens absolument merveilleux, complètement hors du temps, qui n'avait aucune idée de ce que c'était qu'une caméra, qu'il pouvait être filmé, mais qui nous avait accueillis avec tellement de bienveillance et de douceur. Voilà, j'aimerais faire d'autres reportages actuellement pour les pygmées, mais je ne pourrais plus le faire en Centrafrique, parce qu'en Centrafrique, là où nous étions en 1979, je ne pourrais plus y arriver, parce que les routes sont beaucoup moins sûres qu'autrefois. J'y étais pour l'opération Sangaris, où l'armée française est intervenue pour empêcher les massacres à Bangui, entre les milices de la Séléka et les milices des anti-Balaka, mais voilà, je ne pourrais plus prendre ces routes. Elles sont aux mains de groupes armés.
Alors, vous avez couvert aussi la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Vous racontez votre admiration sans borne pour Nelson Mandela. Racontez-nous comment vous avez réussi à l'interviewer juste après sa libération le 10 février 1990, en faisant, j'imagine, beaucoup de jaloux, beaucoup d'envieux parmi les journalistes du monde entier qui étaient venus couvrir l'événement.
Alors là, il y avait deux sortes de journalistes. Hein. Il y avait des journalistes qui avaient de l'argent et ceux qui n'en avaient pas.
Donc vous étiez pauvre.
Exactement, parce que pour interviewer Nelson Mandela, il fallait payer l'ANC, et vraiment payer très cher. Je peux même pas vous dire combien, parce que ça dépassait complètement la somme qui m'était allouée par Antenne 2. Mais je voulais absolument l'interviewer, quoi. Il fallait que je l'interviewe. Donc, je connaissais sa sœur, qui habitait à un millier de kilomètres de Soweto, là où il venait d'arriver, dans un bantoustan, ces sortes d'états fantômes où étaient parqués les Noirs et qui n'étaient reconnus que par le gouvernement sud-africain. Donc, j'ai pris l'avion et je suis allée voir ma belle, sa sœur, et je lui ai dit, écoutez, venez avec moi, peut-être que grâce à vous, je vais réussir à interviewer votre frère. Elle était absolument enchantée. On a pris avec elle le premier avion. Et vers 5h du matin, je savais qu'il se levait très tôt, on a sonné à sa porte. Ma belle était assez imposante. Avec l'équipe, on était vraiment cachés derrière. Et c'est lui qui a ouvert la porte. Et il a embrassé ma belle. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais vous êtes tellement en forme. Et il m'a dit, mais vous aussi, vous êtes en forme. Il est très charmeur. Et puis voilà, je lui ai posé d'autres questions jusqu'à ce que les gardes de l'ANC, absolument stupéfaits, qu'une équipe ose entrer dans la maison de Mandela, dans son jardin, et l'interviewe, fasse littéralement valser le caméraman et le preneur de son par-dessus les murs. Et moi, je suis restée avec Mandela pendant une heure ou deux, et j'ai pu discuter avec lui. Il recevait dans son jardin ses compagnons de cellule, des jeunes militants de l'ANC, et tout ça avec sur un ton tellement calme. C'était quelqu'un auprès de qui on se sentait bien, on se sentait rehaussé, on passait dans une autre dimension.
Vous êtes retourné en 2017 en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez été déçu par ce que vous y avez vu par rapport aux attentes qu'avait suscité la fin de l'apartheid pour la population noire?
Oui et non. Du temps de l'apartheid, j'avais suivi des jeunes femmes blanches d'une organisation qui s'appelait le Black Sash, qui venaient en aide aux noirs, voilà, pour elles se battaient pour leurs droits. Et moi, je les avais suivies quand elles étaient allées voir des enfants noirs qui avaient été emprisonnés pour des crimes imaginaires. Et je voulais savoir ce qui était devenu ces blanches et ce qui était devenu ces enfants noirs. Ce que j'ai trouvé extraordinaire en 2017, c'est que ces femmes blanches qui combattaient l'apartheid continuaient toujours à défiler dans les rues du Cap pour demander le retour au centre du Cap de métis qui avaient été expulsés du temps de l'apartheid. Donc ces femmes blanches continuaient à lutter. Ça, c'était vraiment formidable, après de 90 ans. Et quant aux enfants noirs, alors il y en a une qui avait sombré dans l'alcoolisme. J'en avais interviewé 4 à l'époque. Un autre qui continuait à garder des chèvres. Et celui qui avait été emprisonné pour meurtre, qui avait été vraiment très menacé à l'époque, il était devenu procureur de la région du Cap. Vous vous rendez compte de l'évolution ? Ça, c'était vraiment formidable. Et puis une autre aussi, elle travaillait au Parlement du Cap. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais en même temps, j'ai beaucoup circulé dans les townships et franchement, elles sont aussi misérables qu'avant. Les Blancs détiennent toujours évidemment l'essentiel de la richesse économique. Je connais bien aussi le problème des Blancs. Souvent, ils ont cultivé la terre, ils ont fait en sorte que l'Afrique du Sud soit si riche et ils ne veulent pas se laisser déposséder comme ça. Bien entendu, je le sais. Mais les problèmes sont toujours là. Et le problème de la terre est redevenu un sujet brûlant pour le nouveau président. Ça, c'est quand même un plus. J'ai bien connu Cyril Ramaphosa du temps où il présidait un syndicat. Il vaut quand même mieux que Jacob Zuma qui a été renvoyé pour corruption. Bon, je pense qu'avec Cyril Ramaphosa, ça va aller mieux. Mais le problème de la terre n'est toujours pas résolu et les townships sont toujours aussi misérables.
Il a promis de procéder à la réforme agraire.
Ouais.
On verra s'il réussit.
Mais ça ne sera pas facile.
À mener à bien cette réforme. Ouais.
Jours dans le monde.
Nouvelle crainte d'embrasement dans le Golfe après l'attaque jeudi matin de 2 pétroliers, un Japonais et un Norvégien en mer d'Oman. Pas de victimes, mais les États-Unis accusent l'Iran qui dément toute implication. RFI Téhéran, Siavosh Ghazi.
Le chef de la diplomatie iranienne s'est empressé d'accuser sur Twitter le groupe B qui désigne John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le prince Ben Salman de l'Arabie Saoudite et Sheikh Ben Zayed des Émirats Arabes Unis. Pour lui, le fait que les États-Unis se précipitent pour lancer des accusations contre l'Iran montre clairement que le groupe B se dirige vers un plan B qui est le sabotage de la diplomatie, y compris les efforts de Shinzo Abe, le premier ministre japonais, pour couvrir le terrorisme économique mené contre l'Iran, a-t-il tweeté. Depuis plusieurs mois, Téhéran accuse les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël de s'être ligués pour préparer une confrontation militaire avec l'Iran. Mohammad Javad Zarif a affirmé dans un second tweet qu'il prédit depuis plusieurs mois un tel scénario. Pour le moment, les responsables politiques et militaires iraniens n'ont pas réagi à la vidéo publiée par le Pentagone. Washington affirme que cette vidéo montre un bateau iranien tentant d'enlever une mine qui n'a pas explosé sur l'un des deux pétroliers.
L'arrivée à Paris lundi de 12 orphelins de djihadistes français. Ils avaient été remis dimanche à une délégation française par les autorités kurdes de Syrie, non loin de la frontière turque. Grégoire Sauvage.
Le ministère français des Affaires étrangères parle d'enfants particulièrement vulnérables. Certains sont malades ou souffrent de dénutrition, précisent les autorités. Ces orphelins, dont le plus âgé a 10 ans, vivaient en effet dans des conditions très difficiles dans des camps du nord-est de la Syrie gérés par les forces kurdes. Cette opération discrète n'est pas inédite. Le 15 mars dernier, 5 orphelins avaient été ramenés en France. La ministre des Armées, Florence Parly, avait ensuite indiqué début avril que d'autres rapatriements auraient probablement lieu, toujours dans le respect de la doctrine française. La France refuse de rapatrier ses ressortissants affiliés à l'État islamique, à l'exception des orphelins et au cas par cas d'autres enfants et encore leur mère. Ces 12 mineurs vont faire l'objet d'un examen médical approfondi, puis seront bientôt présentés à un juge des enfants qui doit décider ou non de leur placement en famille d'accueil. Il y aurait encore entre 400 et 500 ressortissants français dans les camps du nord-est syrien, dont une grande majorité d'enfants. Les autorités kurdes s'attendent d'ailleurs à ce qu'un autre groupe d'orphelins soit remis prochainement à la France.
Martine Laroche-Joubert, le gouvernement français a choisi de traiter au cas par cas le rapatriement des enfants de djihadistes partis combattre en Syrie ou en Irak. Est-ce que cela vous paraît normal ?
Je pense que tous les enfants devraient être rapatriés en France. Ils sont à peu près 200. Les trois quarts ont moins de 6 ans. Les conditions sanitaires vont devenir extrêmement dures. Il va faire bientôt près de 50 degrés dans ces camps. Il n'y a pas d'organisation humanitaire sauf le Croissant Rouge. Il n'y a pas d'eau pour tout le monde. Donc tous ces enfants sont dans une situation extrêmement vulnérables, ils sont très très vulnérables. Je pense qu'ils devraient tous être rapatriés parce que c'est une question humanitaire. Ces enfants sont français, c'est très bien de rapatrier les orphelins, mais il y a aussi les enfants qui sont là avec leur mère. Certaines mères sont très radicalisées. Toutes sont radicalisées, mais certaines plus que d'autres. Et elles empêchent les mères, disons, moins radicalisées, d'envoyer leurs enfants en France, même si ces enfants sont malades. Donc, je pense qu'en réalité, il faudrait rapatrier. Et je sais que là, c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Je sais que le retour en France, il faudra prendre ses enfants en charge et tout ça. Je sais que c'est difficile. Mais je pense qu'il faudrait rapatrier tous ces enfants et qu'il faudrait également rapatrier leur mère. Parce qu'on ne peut pas séparer les enfants de leur mère si elles veulent les garder avec elles. Et je pense que leur mère devrait rentrer en France, être jugée et évidemment aller en prison. Il y a des peines de 10 ans à peu près qui sont prévues pour elles. Voilà. Il y a à peu près 90 mères. Je pense que la France a les moyens de les ramener. Mais il faut qu'il y ait des jugements. Il faut, bien entendu, il y aura jugement. Il faut qu'il y ait de la prison. Et il faut, et les enfants, eux, je le répète, ne sont coupables, évidemment, de rien. Je sais que c'est aussi plus facile de rapatrier des enfants, disons, très jeunes, qui ont 5, 6 ans et encore moins, plutôt que des enfants qui ont 12 ou 14 ans. Et ça sera plus difficile. Je pense que les services sociaux auront davantage de mal. Mais je pense que la France a quand même les moyens de mettre un cadre social pour ses enfants.
Vous écrivez « Le printemps syrien n'en finit plus de mourir ». Vous y avez cru en 2011 en couvrant le début du soulèvement de Homs, de Deraa.
Oui, j'y ai cru, j'étais à Homs en novembre 2011 et il y avait des familles entières qui venaient manifester contre Bachar el-Assad, des hommes, des femmes, des enfants. Et c'est là où j'ai connu aussi cet espoir du football, Abdelbassel Sarraout, qui a été tué dimanche dernier. Et Abdelbassel Sarraout, pour moi, il incarnait ce printemps syrien. C'était quelqu'un qui voulait que la révolution soit pacifique, il ne pensait absolument pas prendre les armes. Il entraînait les foules avec une actrice qui s'appelait Fadwa Sulaiman et qui est morte plus tard à Paris. Et les deux, pour moi, symbolisaient voilà le renouveau de la Syrie, un pays où il demandait la liberté d'expression. Après, Abdelbassel Sarraout est allé vers des groupes beaucoup plus... Il a pris les armes, il n'a pas eu le choix, il est allé vers des groupes plus radicaux, mais avait-il le choix alors que c'était les groupes radicaux qui avaient le plus de poids, de force, d'armes, voilà. Et puis là, alors qu'il était en Turquie et qu'il aurait pu rester en Turquie, tranquille, si je puis dire, il est revenu en Syrie du côté d'Idlib pour continuer à se battre et il est mort. Voilà. Pour moi, ça symbolise la révolution syrienne à laquelle j'ai cru, qui a mal tourné, mais quelquefois, ça fait pas si longtemps que ça, quoi. L'histoire est longue.
Mais vous êtes en colère ou vous êtes triste par rapport à la révolution syrienne?
Oui, j'ai l'impression que je suis triste, je suis en colère. Je ne sais pas si j'ai bien fait mon boulot, si j'ai été assez attentive aux groupes terroristes qui prenaient la main sur les groupes pacifiques. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Je me pose au fond et même pour eux, est-ce que ça valait la peine tant de morts, tant de déplacés? Est-ce que ça valait la peine de commencer une révolution? Mais en même temps, en mémoire de tous ceux qui sont morts pour leurs idées, voilà, je ne peux pas dire que c'était une révolution inutile. Il faut attendre. Mais je me dirais que peut-être j'aurais fini mon boulot quand Bachar el-Assad sera parti. Voilà.
Martine, vous avez un regret dans votre longue carrière de reporter. Il concerne l'Irak et on en revient à la question compliquée de prise de risque.
Oui, c'était pendant la première guerre du Golfe, j'avais été envoyée là pour couvrir la guerre du Golfe, et la veille de l'ultimatum, le 15 janvier 1991, le directeur de l'information, Claude Carré, m'appelle pour me donner l'ordre de rentrer à Bagdad. L'ordre. J'essaie de parlementer, il me dit « non, tu rentres ». Et je savais pas quoi faire, enfin... J'ai fait un vote à l'intérieur de l'équipe. Bon, il y en avait deux qui étaient pour partir et deux, dont moi, pour rester. Et finalement, on est parti. Et quand je suis arrivée à Amman, je me souviens, j'ai appelé ma fille et Alexia m'a demandé « Mais où es-tu ?» Ben, j'ai dit « Amman ». Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais à Amman ? C'est à Bagdad que ça se passe ?» Et je me suis reprochée très longtemps, et je me reproche maintenant encore, d'avoir obéi à cet ordre de rentrer. En réalité, j'aurais dû désobéir. Le directeur de l'info, il faisait son travail, qui était de me protéger. Mais moi, je pense, mon travail de reporter, c'est d'être là où ça se passe. J'aurais menti, bien entendu. J'aurais dit, comme des reporters de la 5, qui avaient menti et qui avaient dit, il n'y a pas de place dans l'avion. Voilà. J'ai regretté ça. C'était pour moi une blessure d'honneur.
Direction à présent Hong Kong, où 1 million de manifestants, selon les organisateurs, sont descendus dans la rue dimanche dernier pour dire non à un projet de loi du gouvernement local pro-Pékin. Le texte permettrait l'extradition de ressortissants de Hong Kong vers la Chine continentale où ils seraient jugés, ce qui porterait atteinte au principe « un pays, deux systèmes ». Florence de Changy a promené son micro dans le cortège des manifestants.
Je pense que l'extradition vers la Chine est très injuste à l'égard des gens de Hong Kong, et même si je sais que ce n'est pas une manifestation qui va faire changer d'avis le gouvernement et annuler son projet de loi, j'estime que c'est mon devoir en tant que citoyenne de Hong Kong d'exprimer mon point de vue. Je chéris vraiment notre identité. La culture de Hong Kong est très différente de celle de la Chine et nous devons sauvegarder notre mode de vie hongkongais.
I'm so angry because of the government.
Je suis très en colère contre le gouvernement. Ils ignorent l'avis du public. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ignorent la majorité des Hongkongais.
Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous pensons que la loi d'extradition vers la Chine est un coup sévère porté contre Hong Kong et le principe de « un pays, deux systèmes ». Nous voulons préserver Hong Kong et nos droits.
Je pense que c'est super que tant de gens soient venus aujourd'hui, bien qu'il fasse chaud et que ce soit fatigant. Cela valait vraiment la peine.
La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a finalement reculé. L'examen du projet de loi controversé a été reporté à une date ultérieure. Mais les manifestants réclament toujours son abandon pur et simple. La police de Hong Kong a violemment dispersé mercredi les rassemblements, bilan 79 blessés. Il y a un an, ou presque, le 12 juin 2018, se tenait à Singapour le premier sommet entre un dirigeant nord-coréen et un président américain. Sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un après des mois d'insultes, de menaces et de provocations réciproques. Un anniversaire que Pyongyang a salué à sa façon en enjoignant les États-Unis à mettre fin à leur politique hostile, sans quoi l'accord signé il y a un an ne serait plus qu'une feuille de papier blanche. En Corée du Sud, on veut malgré tout rester optimiste, même si le processus de dialogue est au point mort. Le reportage à Séoul de Frédéric Ojardias.
Le sommet Kim Trump avait soulevé en Corée du Sud de grands espoirs de paix et de reprise des échanges avec le Nord. Mais un an après, rien ne va plus. Le régime a tiré des missiles, il refuse de parler avec le Sud. Les négociations nucléaires sont enlisées. Réaction dans les rues de Séoul.
Depuis un an, il n'y a pas eu de résultats tangibles, alors on est déçus.
Ce sommet n'a pas été inutile. Il est un pas significatif vers un objectif important, la paix.
Je pense que c'est encore trop tôt pour dire si le sommet est un succès ou un échec, parce que c'est impossible de résoudre la question nucléaire en seulement un an.
Un point de vue partagé par Ko Myung-hyun, chercheur à l'Institut Hassan à Séoul.
Même si les négociations sont dans l'impasse, la Corée du Nord et les États-Unis continuent de se parler. Et le Nord ne s'est pas livré à de provocations majeures depuis Singapour, en dehors des tirs de missiles au mois de mai. Par contre, les deux camps devraient parvenir à un plan de dénucléarisation complète de la Corée du Nord, mais aucun progrès n'a été accompli sur cette question.
La Corée du Sud a justement besoin d'avancer sur la question nucléaire pour améliorer ses liens avec le Nord. Elle souhaite donc un troisième sommet Kim Trump, une rencontre très incertaine pour le moment.
Martine Laroche-Joubert, est-ce que Donald Trump a fait preuve de naïveté, selon vous, face à Kim Jong-un ?
Bon, Donald Trump, il veut être le meilleur négociateur du monde. Hein. Il veut faire des deals, voilà, c'est son truc. Bon, on comprend à peu près ce qui se passe dans sa tête. En revanche, c'est très très difficile de se mettre à la place du leader coréen. La seule chose dont je suis sûre, c'est que l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion massive. Il se dit que s'il n'a plus le nucléaire, bon, la Corée du Nord risque d'être réunifiée avec la Corée du Sud, et pour lui, il n'en est pas question. En réalité, on ne sait pas ce qui se passe en Corée du Nord, parce que même les journalistes, quand ils y vont, sont complètement encadrés, et on leur montre ce que le gouvernement veut bien qu'ils voient. Alors, on entend des bruits, paraît-il, il y aurait un des négociateurs de ces entretiens entre Trump et Kim qui aurait été exécuté, que l'interprète aurait été envoyé dans des camps de rééducation parce qu'elle aurait mal traduit quelque chose. Il y a un mélange de terreur, d'avancée sur le terrain de la Corée du Nord qui est difficilement compréhensible. En réalité, c'est un pays opaque, fermé. On peut y aller en touriste si on veut, on peut. Bon, mais on ne connaît pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du pouvoir, du tout.
Dans votre livre « Une femme au front », vous racontez très franchement que lorsque Barack Obama a émergé sur la scène politique américaine, vous étiez plus que sceptique sur ses chances d'être élu président. Pourquoi ?
Parce que quand on m'a dit son nom entier, Barack Hussein Obama, je me suis dit, mais jamais les Américains vont élire comme président un garçon qui s'appelle Hussein. Ça me semblait totalement impossible. Ils auraient peut-être fait le lien, même si c'est bien sûr absurde, avec le 11 septembre, avec allez savoir, avec leur déboire en Irak. Je revenais d'Irak, voilà. Donc ça me semblait totalement impossible. Et ces discours, quand j'allais par exemple à Harlem dans les bars et que personne n'écoutait vraiment ces discours, pour les Noirs, à ce moment-là, ils faisaient partie de l'establishment, c'est tout. Et puis petit à petit, j'ai vu ça monter en puissance, ces discours ont pris de plus en plus de fond, et surtout, il avait fait une campagne mais extraordinaire, par Internet, un mélange de les jeunes, un mélange d'Internet, de porte-à-porte, et c'était absolument fascinant de voir ça monter en puissance. Et quand 3 mois avant l'élection, j'étais au Texas et que j'interviewais des cow-boys et que je leur ai demandé pour qui ils allaient voter, ils m'ont dit « Ah, on aime bien McCain ». Alors je leur ai dit « Bah, vous allez voter pour lui ». Alors ils m'ont dit « Non, on va voter Obama ». Sans savoir très bien me dire pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils estimaient qu'ils avaient perdu de l'argent avec Bush avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, j'ai senti que c'était plié, qu'il allait gagner.
On va rester aux États-Unis où des troubles ont éclaté à Memphis dans la nuit de mercredi à jeudi après la mort d'un étudiant noir tué par la police. À San Francisco pour RFI, Eric Desalves.
Après les violences de la nuit, le calme semblait revenir jeudi matin dans ce quartier de Memphis bouclé par la police. Jusque tard dans la nuit, plusieurs centaines de jeunes se sont heurtés aux forces anti-émeutes. Jets de pierres contre gaz lacrymogène. Au final, 24 agents ont été blessés, dont 6 hospitalisés et plusieurs de leurs véhicules endommagés. Les manifestants de ce quartier afro-américain demandent des comptes après la mort d'un des leurs, Brandon Weber, 20 ans, tué par des agents devant chez lui d'une vingtaine de coups de feu, selon sa famille. La victime, assure la police, faisait l'objet de 11 mandats d'arrêt pour des délits présumés allant de la conduite sans permis et sans ceinture à port d'armes illégales ou trafic de cannabis. Selon le bureau d'enquête du Tennessee, au moment de son interpellation vers 19h, le jeune homme noir représentait une menace car il aurait foncé avec sa voiture sur celle des agents et en serait sorti avec une arme à la main. Mais aucune vidéo ne permet de confirmer cette version. Les hommages en sa faveur se multiplient sur les réseaux sociaux. Étudiant à l'université, il était père d'un enfant de 2 ans et en attente d'un second. Son ancien proviseur de lycée le présente comme un élève talentueux et travailleur, sa mort, dit-il, me brise le cœur. En moyenne, chaque année, près d'un millier de personnes sont tuées par la police aux États-Unis.
Martine Laroche-Joubert, est-ce que c'est une chose qui est à mettre au passif de Barack Obama ? Il n'a pas réussi à faire changer la perception des Noirs par la police blanche dans les quartiers afro-américains. Il y a encore et toujours des bavures.
Oui, c'est vrai, il y a encore et encore des bavures. Là, en revanche, j'aurais cru que ça allait changer quelque chose. Finalement, non, il y a toujours des bavures. Ça me rend assez triste, en tout cas, pour le moment. Je me souviens quand même des larmes d'Obama. Souvent, quand il y avait des bavures, il allait à l'endroit où des Noirs avaient été tués. Et il était tellement ému et il le montrait, même s'il n'a jamais voulu jouer du fait qu'il était noir lui-même. C'était pas ça. Voilà, je ne vois pas Trump ayant les mêmes larmes. Voilà, c'est comme ça pour le moment. Les progrès sont lents. Quand Obama avait été élu, je me souviens que j'avais rencontré un marcheur de Selma qui avait défilé du temps de Martin Luther King. Et quand il avait appris que ce jeune président noir venait d'être élu, il avait les larmes lui aussi qui coulaient sur son visage. Mais il m'avait dit, mais ça sera très long. C'est pas pour ça que ça va changer du jour au lendemain. Et finalement, il avait raison.
Jours en France.
L'acte 2 du quinquennat est lancé. Édouard Philippe a prononcé mercredi son discours de politique générale et obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. Le Premier ministre a défini la feuille de route. Écologie, réforme de l'assurance chômage, baisse d'impôts, réforme des retraites pour davantage d'équité. Sans oublier une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'ouverture de la PMA, la procréation médicale. Également assisté aux couples de femmes. Réaction mitigée dans les couloirs du Palais Bourbon. Reportage Anne Souhaitement.
Je crois qu'aujourd'hui, on vit un véritable tournant.
Guillaume Chiche a le sourire aux lèvres. Depuis des mois, ce marcheur issu des rangs de la gauche fait pression pour que le projet de loi ouvrant la PMA aux couples de femmes soit voté. Il a donc obtenu gain de cause. Bonne nouvelle pour Olivier Faure, patron des socialistes, qui y voit toutefois aussi de la politique politicienne de la part de l'exécutif.
C'est un gouvernement qui mène une politique de droite, qui a maintenant un électorat qui est un électorat lui-même de droite, des élus maintenant qui sont des élus de droite. C'est bien la preuve que il fallait ce geste pour les rassurer sur le fait qu'ils étaient toujours dans le « en même temps ».
Si elle est favorable à la mesure, difficile donc pour la gauche d'applaudir des deux mains. L'insoumis Alexis Corbière y voit surtout un effet d'annonce.
Mais moi je suis favorable à ça, mais je vois bien que même ce qui était un peu le clou du spectacle, si je puis dire, parce qu'on a vu les députés En Marche se lever, mais c'était déjà dans les tuyaux.
Une mesure cosmétique, renchérit le député RN Sébastien Chenu.
Moi je n'ai jamais rencontré un électeur qui m'ait dit que sa priorité c'était la PMA.
Député LR, Éric Woerth est lui opposé à la PMA pour toutes.
Ça va fracturer évidemment, parce que derrière la PMA, il y aura évidemment la gestation pour autrui. C'est quasiment inscrit.
Le projet de loi sera débattu à l'Assemblée fin septembre.
Le football a occupé une large place dans l'actualité française cette semaine. Les Bleus, avec un E et un S à la fin, disputeront les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football. Mercredi soir, elles ont battu la rugueuse équipe de Norvège 2-1, en dépit d'un but contre son camp de Wendy Renard. Envoyé spécial de RFI à Nice, Éric Chorin.
Moins de 10 minutes après l'ouverture du score par Valérie Gauvin, les Françaises se retrouvent sous la pression de Norvégiennes qui veulent revenir dans un match où elles ont tenu la dragée haute au bleu pendant une mi-temps. Le centre d'Erlofsen paraît sans danger, Graham Hansen marqué par Amel Majri est trop loin pour s'en saisir, mais Wendy Renard du plat du pied marque contre son camp alors qu'elle aurait pu laisser filer le ballon, un geste que personne ne comprend vraiment.
En fait c'est simple, un centre de la part d'une joueuse adverse, et puis Amel elle me parle mais je sais pas trop ce qu'elle me dit, et moi je vais assurer pour la mettre en corner, et je la mets dans mon camp, donc l'équipe arrive à ouvrir la marque. Derrière, c'est vrai dans ces situations-là, vous sentez seul en fait, même comme une conne limite.
À cet instant, Wendy Renard se prend la tête entre les mains, mais un quart d'heure plus tard, Engen s'essuie la semelle sur le genou de Marion Torrent dans la surface de réparation. Après consultation de la vidéo, l'arbitre siffle un pénalty que Jenny Le Sommer convertit sans trembler. La France reprend l'avantage que Valérie Gauvin lui avait donné une minute après la pause en reprenant du gauche un centre de Majri. Une victoire dans la douleur qui servira sans doute bien plus pour la suite de la compétition que le trop facile succès face aux Sud-Coréennes en ouverture.
Martine Laroche-Joubert, 10 millions de téléspectateurs ont suivi le 7 juin sur TF1 le premier match des Bleus en Coupe du Monde. Mercredi soir, ils étaient encore 9 400 000 devant leur télévision pour suivre les exploits d'Amandine Henry et de ses camarades. Vous comprenez l'engouement que suscitent les Bleus ?
Ah oui, ça je comprends, parce que j'ai des amis, des hommes, qui ne s'intéressent pas spécialement au football, et qui, depuis qu'ils ont vu ces matchs, qu'ils ont regardé ces matchs, me disent « Ah moi, je m'intéresse pas tellement au football des hommes, alors le football des filles, alors là, c'est extraordinaire !» Alors moi, j'ai pas vu les matchs, mais j'ai vu des photos, et en effet, magnifiques, des filles comme ça, elles sont athlétiques, elles sont superbes, voilà, donc je trouve ça extraordinaire, oui, vraiment formidable.
Ça veut dire que les choses sont un peu en train de bouger changer, le regard sera peut-être moins condescendant envers les filles qui choisissent de jouer au foot.
Ça c'est sûr, hein, parce que 10 millions pour un match, c'est énorme. Donc ça, c'est sûr que ça va changer le regard, c'est évident.
Et le nombre d'adhérentes peut-être à la fédération, dans les clubs de football. Martine Laroche-Joubert, à l'heure des fake news et de la détestation qui est un peu à la mode des médias, est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui pour l'avenir du métier de journaliste ?
Ah oui, je suis inquiète. Hein. Je suis inquiète parce que voilà, il y a les comptables dans les rédactions qui ne comprennent absolument pas ce qu'est ce métier de reporter. Et il y a de plus en plus de comptables qui prennent le pouvoir dans les rédactions, avec les DRH, etc. Donc voilà, il faut, si les patrons de presse, si les directeurs de rédaction ne sont pas assez forts vis-à-vis de ces comptables, ben, il risque d'y avoir moins de reporters sur le terrain. Le métier de journaliste est aussi attaqué par les politiques, et ça arrive, le président de la République, Jean-Luc Mélenchon, l'extrême droite, etc. Bon, et je pense qu'au contraire, à l'heure où il y a tellement de fake news, il faut aller vérifier sur place, il faut que des journalistes aillent sur place, voir ce qui se passe, et que ça contribuera peut-être à sauver la planète, parce que moi j'ai rencontré au cours de mes reportages des gens qui avaient une vraie vision du monde. Simplement, il faut leur tendre un micro, il faut les entendre, il faut les écouter. Alors je suis inquiète, oui, mais en même temps, bon, il m'arrive de voir des reportages tellement extraordinaire de jeunes journalistes qui ont moins de 30 ans que je me dis, bon, je leur fais confiance. Vraiment, quelquefois, certains témoignent d'une telle maturité sur le terrain que je me dis, bon, s'ils sont aussi bons sur le terrain, ils sauront aussi se battre dans les rédactions pour partir.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est de comprendre les coulisses d'un reportage. Parce que c'est vous qu'on entend, c'est vous qu'on voit à l'image lorsque vous faites ce qu'on appelle des plateaux en situation sur le terrain. Mais derrière, il y a un travail d'équipe et les fixeurs, par exemple, jouent un rôle essentiel. Expliquez-nous ce qu'est un fixeur.
Alors, un fixeur, c'est celui qui va nous guider particulièrement dans les pays en guerre, et qui va aussi nous servir d'interprète. Et c'est indispensable d'avoir un bon fixeur, parce que lui, mieux que nous en général, il sait où est le danger, il sait où sont par exemple les mines par terre, voilà, il se renseigne. Donc voilà, avoir un bon fixeur, c'est indispensable. C'est aussi pour franchir des frontières clandestinement, quand il faut aller couvrir par exemple la rébellion en Syrie, on n'a pas de visa évidemment, donc il faut franchir les montagnes, ou voilà. Donc enfin, c'est difficile, et avoir un bon fixeur, c'est indispensable, c'est un plus.
Vous remettez votre vie entre ses mains.
Oui, ça arrive.
Ouais. Et c'est lui qui vous fait avoir accès à l'information.
Absolument.
Martine Laroche-Joubert, quand on est grand reporter, on le voit bien dans votre livre, il faut toujours être disponible, prête à partir, à interrompre ses vacances, à manquer sans état d'âme Noël, le premier de l'an, les anniversaires. Vous ne vous êtes jamais demandé si ces sacrifices en valaient la peine ?
Ces sacrifices, à dire vrai, les sacrifices, j'ai l'impression que ce sont plutôt mes enfants qui ont fait des sacrifices, parce que ils ont accepté en effet que je fête leurs anniversaires le mois suivant, Noël en janvier, etc. Donc voilà. Mais ils ont accepté ces sacrifices avec un tel sourire, avec tellement de bienveillance à mon égard, que voilà, ça ne...
Moi, j'ai évité d'avoir mauvaise conscience.
Exactement. Voilà, ils m'ont évité au maximum d'avoir mauvaise conscience, et je les en remercie chaque fois que je peux.
Merci beaucoup, Martine Laroche-Joubert, d'avoir été notre invitée. Je renvoie nos auditeurs et auditrices à votre livre, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, paru au Cherche Midi. Merci à Vanessa Rovensky qui a réalisé cette émission. Vous retrouverez Pierre-Edouard Deldic demain à 17h10 heure de Paris pour le magazine Idée. Il recevra l'historien Michael Lucken pour évoquer l'influence de la Grèce antique sur le Japon. Une semaine d'actualité, émission à écouter également sur le site de la radio et sur l'application RFI.fr. Bon week-end.